Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Baisse d'impôts, réindexation des retraites, référendums locaux. Les réponses d'Emmanuel Macron à la crise des gilets jaunes sont connues des médias. Il envisage notamment de supprimer l'ENA. Explication à suivre. Nous ferons ensuite un point précis sur ce qui a été sauvé ou non après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les pompiers ont été très actifs au moment du départ du feu. Nous reviendrons aussi sur les promesses de dons, une façon pour l'État de payer également pour la reconstruction grâce à la défiscalisation, vous le comprendrez. Et puis nous irons en Algérie dans cette édition. Le président du Conseil constitutionnel a démissionné hier. Et l'on commence donc par ces mesures évoquées dans la presse qui ne sont ni commentées par l'Élysée ni démenties. Comme un ballon d'essai, alors qu'Emmanuel Macron a reporté sans donner de date ses annonces en réponse au grand débat national et aux gilets jaunes. A priori donc, les pensions inférieures à 2000 euros par mois devraient être réindexées sur l'inflation dès l'année prochaine. Les classes moyennes devraient également bénéficier de baisses d'impôts. Au niveau des services publics, Emmanuel Macron ne voudrait plus de fermeture d'hôpitaux ni d'écoles jusqu'à la fin de son quinquennat, et des classes de la grande section de maternelle au CE1 de 24 élèves maximum. Le chef de l'État appelle également à un changement de formation des élites françaises avec une mesure hautement symbolique, la suppression de l'ENA, Yannick Falt.
Le projet vise à révolutionner l'avant et l'après formation des hauts fonctionnaires. L'avant, le recrutement, en ouvrant davantage le cursus aux milieux modestes, aux brillants étudiants de banlieue par exemple, le retour de l'ascenseur social, de la méritocratie, un coup d'arrêt à la reproduction des élites. L'après, le placement des futurs hauts fonctionnaires, le terrain d'abord, la fin de la fameuse botte qui permet aux meilleurs d'intégrer directement l'inspection des finances, le Conseil d'État ou la Cour des comptes. Le terrain, personne ne pourrait y couper en généralisant une expérimentation déjà menée. De jeunes énarques chargés par exemple du RSA en Guyane ou de Parcoursup, la plateforme de placement des bacheliers dans l'enseignement supérieur, c'est ensuite seulement, et s'ils ont fait leurs preuves, qu'ils pourraient intégrer les grands corps de l'État. De quoi réduire la déconnexion des élites, espère Emmanuel Macron, lui-même énarque, tout comme Édouard Philippe et leurs deux plus proches collaborateurs, Alexis Kohlert, le secrétaire général de l'Élysée, et Benoît Ribadeau-Dumas, le directeur de cabinet du Premier ministre.
Alors ce projet, il faut le souligner, Emmanuel Macron n'en a pas encore parlé, annonce reportée depuis l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'était avant-hier soir. Hier soir, le président s'est bien exprimé, mais sur les suites de cet incendie seulement. Il vise une reconstruction de la charpente du toit de la Flèche en 5 ans. Irréaliste pour certains spécialistes. Pour ce qui est des œuvres et des objets rares à l'intérieur de la cathédrale, certains ont pu être sauvés grâce à l'intervention des pompiers, Maud Calvez.
Impossible de sauver la charpente, les pompiers mettent donc la priorité sur la protection des œuvres dans la cathédrale. En premier lieu, les deux joyaux du bâtiment, la couronne d'épines et le Saint-Sacrement, sauvés en partie par l'aumônier des pompiers. En peu de temps, les équipes s'organisent. Les conservateurs du patrimoine indiquent aux pompiers quelles œuvres sauver en priorité. Elles circulent alors de main en main, une chaîne humaine sur 200 mètres, des croix sur les épaules des policiers, des cierges sur celles des pompiers. Des voitures de la mairie réceptionnent alors ces joyaux enroulés dans des couvertures avant de les déposer à l'hôtel de ville puis de les transférer au Louvre.
Et après ce sauvetage, Maude, quel premier bilan peut-on faire ?
Certaines œuvres sont tout de même endommagées. Le buffet du Grand Orgue a pris l'eau, dessus des gravats, de la poussière. L'incendie a en revanche attaqué le petit orgue sous la Flèche. Les trois rosaces du XIIe et XIIIe siècle sont sauves. Seuls des vitraux du XIXe ont succombé. Les 13 grands tableaux de 2 mètres sur 3 ont aussi survécu. Les reliques sont sauvées. Une bonne partie de l'autel a résisté. La croix derrière, la Pietà, statue monumentale. Tout le trésor est mis à l'abri en quarantaine, le temps que tout sèche. Le temps aussi de voir ce qui peut être restauré par ordre de priorité. Autre priorité qui se pose maintenant, celle de la stabilité de la structure.
Merci Maud Calvez pour France Culture. J'ajoute que le président de la Fédération française du bâtiment indique que l'un de ses membres a retrouvé le coq qui surplombait la flèche de la cathédrale. Un objet cabossé. On ne sait pas encore si les trois reliques qui se trouvaient à l'intérieur y sont encore. 5 ans, dit donc Emmanuel Macron, pour rebâtir, pour restaurer le tout. Hier soir, les promesses de dons s'élevaient à environ 800 millions d'euros, selon un décompte de l'agence France Presse. Parmi les généreux donateurs, on peut citer quelques grandes fortunes françaises, comme les familles Pinault, Arnault, Bettencourt. Il y a aussi Apple ou la Banque Centrale Européenne qui ont promis leur aide financière. Il faut dire qu'en matière de mécénat d'entreprise, la fiscalité française est plutôt avantageuse. 60% de déduction fiscale depuis la loi Ayagon en 2003. C'était donc il y a 16 ans. Invité du journal de 22h hier soir, François Damazière, maire d'hiver droite de Versailles, spécialiste des questions de patrimoine. Ces déductions fiscales sont aussi une aide de l'État, dit-il, mais ce n'est encore pas suffisant.
Il est utile d'avoir aussi un maintien à un niveau que l'on fait autour de 400 millions d'euros par an des crédits aux monuments historiques. Ce qui fait du mal, si vous voulez, à l'entretien du patrimoine en France, c'est les variations qu'on a pu noter à certaines époques, c'est-à-dire des baisses importantes des crédits aux monuments historiques, et puis qui sont ensuite souvent rattrapées, parce qu'on s'aperçoit que de toute façon, il faut cette somme minimale qui est de l'ordre de 400 millions. C'est en gros ce que l'on considère aujourd'hui le bon niveau d'étiage pour les montants des crédits accordés aux monuments historiques. Donc c'est la combinaison de tout ça qui permet d'avoir une politique du patrimoine sérieuse, cohérente, et qui est sur le long terme.
François Damazière, interrogé par Stanislas Vazak. Les dons arrivent donc des grandes ou petites fortunes françaises, de donateurs plus modestes également. Les réactions de soutien également, elles affluent depuis 36 heures. Hier encore, des centaines de personnes se sont rassemblées sous la statue de Saint-Michel à Paris, proche des lieux du sinistre. Et pendant ce temps, à l'Accor Arena de Bercy, une femme disait son émotion devant 10 000 personnes. Michelle Obama y a fait une conférence pour présenter par ailleurs son livre « Devenir », l'ancienne première dame des États-Unis, superstar, et il faut tout de même le souligner, inspirante pour beaucoup de spectateurs. C'est un reportage de Thibaut Cavaillès.
Michelle Obama !
Quand elle est arrivée, les applaudissements auraient pu être encore plus fournis, mais les mains de beaucoup de fans étaient prises. Il fallait filmer ce moment au portable. Pendant une heure et demie, Michelle Obama a donc prodigué ses conseils pour s'en sortir quand on est noir, issu d'une famille peu aisée, pour garder la face quand on est prise de haut par une responsable de la prestigieuse université de Princeton. L'ex-first lady qui conquiert l'audience quand elle parle de sa rencontre avec un jeune avocat sorti de Harvard, un certain Barack. Elle parle sans hésiter de leurs difficultés à avoir des enfants. Dans le public, une majorité de femmes, beaucoup de noirs, comme Medina.
Il y a 10 ans, je suis allée à Washington pour l'investiture d'Obama. Là, je vois Michelle Obama, c'est impressionnant, c'est très émouvant. Ça va bien au-delà de la négritude. À travers les barrières qu'ils ont pu franchir, elle montre en fait qu'il faut se dépasser et ça touche tout le monde.
Les derniers mots de Michelle Obama seront adressés aux jeunes. Pour défendre la démocratie, dit-elle. À l'issue de la conférence, Elodie, 23 ans, étudiante, se sent plus forte.
Je suis de Guadeloupe, j'ai dû quitter la famille pour faire mes études à Bordeaux. Et il y a beaucoup de jeunes qui rencontrent beaucoup de difficultés, qui n'ont pas forcément les bonnes passerelles, qui n'ont pas forcément les moyens, qui ont peur aussi d'affronter leur avenir. Pour moi, ça reste une dame qui peut nous inspirer à faire de belles choses.
Elle a payé sa place 90 euros. Celle de Floriane et de son amie, étudiante, elles aussi, ont coûté bien plus.
On l'a payé 400 euros. C'est un peu cher, mais ça valait le coup. Son envie d'être femme, d'avoir cette force-là, j'adore.
Une force qui fait de Michelle Obama, depuis fin décembre, la femme la plus admirée des États-Unis.
Thibaut Cavaillès pour France Culture. Tripoli en Libye a été touchée pour la première fois en son centre depuis l'offensive du maréchal Haftar. Hier soir, un bombardement a tué 2 personnes, en a blessé 8. Chaque camp, les forces d'Haftar et le gouvernement d'Union nationale se renvoient la responsabilité. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU devrait se tenir hier dans la soirée. Pendant ce temps, en Algérie, la crise politique semble loin d'être terminée. Le président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz, numéro 3 de l'État algérien, a démissionné hier. Il a craqué face à la pression populaire, Leïla Berato.
Malgré le départ d'Abdelaziz Bouteflika, les autorités n'arrivent pas à calmer la protestation. C'est dans ce contexte que Tayeb Belaïz a déposé sa démission. Ce proche d'Abdelaziz Bouteflika n'était à la tête du Conseil constitutionnel que depuis le 21 février dernier, après le décès de Mourad Medelsi. Âgé de 70 ans, Tayeb Belaïz était magistrat. Il a été plusieurs fois ministre avant d'être nommé conseiller spécial du président de la République. Pour les partis d'opposition, cette démission est une bataille de plus remportée par les manifestants. Quelques heures après sa démission, Tayyab Belaïd était remplacé par un autre membre du Conseil constitutionnel, Kamel Fenech. En parallèle, dans l'après-midi, le chef d'état-major algérien, Ahmed Gaïd Salah, a prononcé un nouveau discours dans lequel il s'est attaqué à Mohamed Medienne, l'ancien tout-puissant chef des services de renseignement. Il l'accuse de tenir des réunions pour entraver les solutions de sortie de crise. Le chef d'état-major a affirmé que toutes les perspectives restaient ouvertes pour trouver une solution à la crise.
La police britannique annonce avoir interpellé 290 militants écologistes à Londres. Pendant deux jours, ils ont manifesté dans le centre de la capitale britannique pour dénoncer l'inaction du gouvernement face au changement climatique. Le ciel s'annonce nuageux ce matin, particulièrement à la frontière franco-belge. Les éclaircies se font une place au fil de la journée, laissant le soleil réchauffer peu à peu l'air. Comptez ce matin 12 degrés à Dunkerque, 13 à Paris et Strasbourg, 15 à Bordeaux, 17 à Bayonne. Il fera 17 à 25 degrés du nord au sud cet après-midi.